Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39. On va lire le passage. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, je pense qu'il est approprié le titre, « Souvenez-vous », parce que les deux premiers mots qui sont utilisés dans le passage, il veut, l'auteur, rappeler aux Hébreux de le moment de leur conversion. On sait qu'ils étaient sous une très grande pression sociale, que pour les Hébreux de l'époque, ceux qui devenaient chrétiens étaient considérés comme des apostats, comme des personnes qui avaient abandonné leur foi et qui étaient rejetés socialement, rejetés économiquement, et ils avaient une pression telle qu'ils étaient tentés de retourner dans le vieux système de judaïsme des sacrifices d'animaux. Et tout le développement de l'Épître aux Hébreux avait pour but de démontrer aux Hébreux que cette période-là était terminée parce que toutes ces choses-là étaient des ombres qui pointaient vers la réalité, vers la personne de Christ. Et que le Christ étant venu, vous ne pouvez plus retourner dans ce système-là parce que vous faites une erreur monumentale. Et tout le développement de l'Épître aux Hébreux qu'on a vu jusqu'ici avait pour but de leur démontrer qu'il ne fallait pas qu'ils fassent ça. Et on a vu la semaine dernière qu'il leur donnait un très grand avertissement. On a vu que dans l'intérieur de l'Épître aux Hébreux, il y a 5 grands avertissements qui ont tous un rapport avec ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu, ne pas l'écouter, ne pas s'y attacher. Et la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'était le danger d'apostasier. Apostasier, ça veut dire quitter, abandonner, pour retourner dans un système qui n'était que l'ombre. Bien sûr, si vous aimez une personne, puis je vous dis, je vais vous donner une photo de la personne, puis OK, ça va-tu? Aimez-vous mieux la photo ou la personne? Alors, c'était un peu ça, là. Ils voulaient retourner vers la photo alors qu'ils avaient la personne, Christ était venu, et ça faisait pas longtemps qu'il était venu. Et l'apôtre les avertissait parce que, pas bien ben longtemps après, beaucoup d'auteurs pensent que l'Épître aux Hébreux a été écrit aux alentours dans l'an 66-67. Donc, 3 ans après, Dieu voulait démontrer que ce système-là était terminé et le jugement qui a permis qu'il arrive sur Jérusalem parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie, ça a été la destruction totale de la ville de Jérusalem en l'an 70. Donc, il était à 2 ans, il ne savait pas, là, mais il était à 2 ans que ça arrive. Alors, ici, il leur dit « Souvenez-vous », parce que le but de tout ça, souvenez-vous, c'est ne faites pas l'erreur. Autrement dit, il était dans un état, c'est comme s'il était au maximum des souffrances qu'une personne chrétienne peut subir. Et là, il était tenté, à cause de la pression, de retourner dans le vieux système. Mais là, avant qu'il fasse la bêtise, il leur dit « Souvenez-vous ». D'où, comment vous avez souffert lors de votre adhésion au christianisme, votre rejet, vos souffrances personnelles, les souffrances auxquelles vous vous êtes associés à cause de d'autres que vous avez aidés. Et on va voir tout le développement de ça qui est en train de leur démontrer. Et ce qui est important, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des personnes qui croient que le salut se perd, mais dans le verset 39, c'est comme un verset qui vient rappeler aux Hébreux, il leur dit, nous, parce qu'il leur dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, autrement dit, s'il retourne vers l'ancien système, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset 39 vient donner comme une signature. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu Hébreux 6, il y a un passage qui est un petit peu troublant, là, qui peut sembler vouloir enseigner que le salut peut se perdre. On avait vu ça, on ne retournera pas là. Mais ici, dans le verset 39, c'est comme la signature. Ça se dit, nous, en parlant des chrétiens qui étaient d'origine juive, mais qui maintenant avaient choisi de suivre Christ, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, il les remet face à la personne de Christ, face à l'œuvre de Christ, et leur dit, nous, on ne retournera pas en arrière. Puis ici, le but de l'ensemble du message, c'est de se souvenir de leur première souffrance. La vie chrétienne, il ne faut pas s'imaginer, la vie chrétienne, la grâce de Dieu est gratuite, le ciel est gratuit, mais la vie chrétienne, ça l'a coûté énormément cher à la personne de Jésus-Christ. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on peut vivre la vie chrétienne sans souffrir. Le Seigneur nous dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, le but de ça ce matin, c'était qu'il voulait leur rappeler que la vie chrétienne sans souffrance, oubliez ça, ça n'existe pas. Ça existe si vous ne mentionnez pas le nom de Christ, ça existe si vous ne partagez pas Jésus-Christ, ça existe si vous ne dénoncez pas le péché, mais si vous dénoncez le péché et vous vivez pieusement en Jésus-Christ, vous allez subir le même traitement que Jésus-Christ a subi lorsqu'il est venu sur la terre. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le tort, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vont vous le faire à vous aussi. Et si on regarde notre vie et qu'on n'en a pas de ça, peut-être est-ce un signe qu'on ne vit pas à la hauteur de ce qu'on devrait vivre, parce qu'il nous l'a dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, on se rappelle qu'on est dans la partie pratique du livre. Tous les épîtres sont divisés de la même façon. Il y a toujours la partie théorique ou doctrinale. La doctrine, c'est un mot qui veut dire tout simplement enseignement. Il y a une partie d'enseignement, et après que l'enseignement est donné, mais l'enseignement implique un changement dans le comportement, implique un changement dans la vie pratique. Tous les épîtres sont divisés comme ça. Il commence par enseigner, après ça, il dit, voici, à partir de ce que je vous ai dit, voici ce que vous devez changer. Et là, il est rendu là. À partir de 10-18, du verset 18 du chapitre 10, on est dans la partie pratique de l'épître aux Hébreux. Alors, après les avoir toutes démontré les choses concernant Jésus-Christ, il leur dit, voici maintenant comment vous devez agir. Alors, aujourd'hui, il leur dit, souvenez-vous. Alors, un appel au souvenir est lancé aux Hébreux. Il est lancé parce que le souvenir doit intervenir lors de décisions importantes, d'évaluation de situations, de grandes orientations et de choix déterminants. N'est-ce pas que c'est de la façon dont on agit dans la vie? Quand on veut prendre des grandes orientations, des grands changements dans nos vies, on a besoin de se rappeler des choses. De se rappeler des choses, de se souvenir. Le souvenir doit servir pour décider de notre engagement, pour persévérer, pour atteindre des buts. Dieu n'a jamais promis à son peuple que le chemin serait facile dans notre voyage sur cette terre. Il a plutôt, écoutez bien le mot, il a plutôt ordonné que nous connaîtrions des tribulations. Marcel, tu es en train d'inventer ça, là? Non, on le voit le verset. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tribulation, ça vous dit ce que ça veut dire? Tribulation, ça vient du mot latin tribulum. Tribulum, c'était un fléau. Un fléau, c'était deux bâtons reliés par une chaîne et qui servaient à battre les céréales pour sortir la partie qui est digestible de la partie qui est non digestible. Alors, le mot vient de là. Les tribulations, c'est comme l'idée de battre les céréales de manière à faire sortir les écailles, ce qui n'est pas digestible, pour recueillir ce qui est important. Alors, si j'utilise le mot tribulum, qui vient de la tribulation, c'est que dans notre vie, Dieu va permettre, non seulement il va permettre, mais il va ordonner. Pourquoi il permet des tribulations? Des tribulations, c'est douloureux. On pourrait se dire, Dieu est assez puissant, il pourrait nous éviter toutes les troubles. Mais s'il nous évitait les tribulations, de quelle manière on vivrait? On voudrait s'installer sur la terre, on est-tu bien? On n'a pas de problème. Les problèmes que Dieu permet qu'ils arrivent dans nos vies, c'est justement pour enlever le méchant du milieu de nous, nous faire haïr le péché, nous faire espérer rentrer au ciel le plus vite possible. C'est vraiment le but. Parce qu'il pourrait tout nous éviter ces choses-là, mais il ne le fait pas. Même dans les Écritures, il nous dit qu'il a décrété il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Versets 32 à 34, on va voir qu'il veut qu'on se souvienne que lorsqu'on s'expose, on expose notre foi, il se produit des choses. L'exposition initiale de notre foi. Dans Hébreux 10, 32, la première partie du verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours. » Là, ils ont quand même plusieurs années de vie chrétienne, non, la plupart. Mais la pression devient tellement forte que là, il y en avait qui étaient comme c'est donc où on serait dans l'aide. Donc, on fait le mauvais choix pour retourner, pour retrouver leur communion avec l'ensemble du peuple juif. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'exclusion de la synagogue, c'était que la synagogue leur disait « Vous ne pouvez plus venir à la synagogue, première chose. Deuxièmement, économiquement, vous n'en avez plus le droit d'avoir des relations avec les autres. Puis, même pas leur parler. » Je ne sais pas si on connaîtrait un genre de pression sociale qui serait de ce niveau-là, nous, est-ce qu'on ne serait pas plutôt porté à renoncer à notre foi? C'était un peu ça qui se passait à l'époque, là. Alors, il faut vraiment comprendre la pression énorme qu'il subissait. Il dit, souvenez-vous de ses premiers jours. Un juif, à l'époque, qui disait, moi, je reconnais que Jésus qui est venu, qui a été crucifié à la croix, c'est le Messie, alors que l'ensemble des chefs de l'époque religieux disaient, non, ce n'est pas le Messie, c'est une erreur. Quand tu disais que c'était le Messie, tu faisais un acte là, public qui avait des conséquences énormes sur ta vie à tous les niveaux, là, social, économique, tous les niveaux. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours ou après avoir été éclairé. Notre foi initiale, c'est celle reçue lors de notre régénération par le Saint-Esprit. C'est la période de notre premier amour avec le Christ. C'est l'époque où les Hébreux, nouvellement convertis, acceptèrent de souffrir pour leur foi. Ils prenaient la décision publiquement, ils se faisaient rejeter, mais au moment de leur premier amour, au moment de leur conversion, c'est toi qui leur dis, « Souvenez-vous dans les premiers jours où vous avez été éclairés. » Ils avaient accepté le sort que cela était pour provoquer chez eux. Alors, c'est celle où ils abandonnèrent le judaïsme, où ils furent victimes de rejet, de mépris et d'une multitude de mauvais traitements et de fausses accusations. Ces Juifs avaient été éliminés par les vérités de l'Évangile, leur corruption. N'est-ce pas ce qu'on enseigne? La Bible enseigne qu'on est tous totalement dépravés, corrompus, que si le Seigneur nous laissait aller à notre corruption, on serait capable des pires crimes de la terre. On ne les commet pas tous, mais on a tous le potentiel d'être capable de les faire. Parce que des fois, quand j'écoute des fois à la télévision où ils nous montrent des endroits où il y a des guerres sociales ou des guerres civiles, des grosses guerres, et ils nous racontent ce que les gens font en temps de guerre, et tu regardes ça, tu te dis, ça se peut pas, ça te fait vomir. Ça se peut-tu qu'un être humain fasse une pareille chose à un autre être humain? Des affaires inimaginables. On ne commencera pas à donner des exemples, mais c'est juste pour nous montrer qu'on a tous en nous le potentiel de faire de pareilles horreurs, notre corruption. Et les Écritures nous enseignent aussi notre impotence. L'impotence, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas capable de venir au salut par nous-mêmes. C'est Dieu qui doit nous faire grâce, qui doit venir vers nous, qui doit nous amener le Saint-Esprit et nous faire habiter par le Saint-Esprit. C'est une grâce qu'il nous fait. Et par le Saint-Esprit, il nous ouvre l'intelligence à notre corruption, à notre péché, à notre perdition, que si on mourait dans cet état-là, on s'en irait en enfer pour l'éternité. Et en même temps, il nous ouvre l'intelligence à la personne de Christ qui est venue sur la terre. Dieu s'est incarné, Dieu le Fils s'est incarné dans une chair d'homme et a vécu toute sa vie sans commettre un seul péché de quelque nature que ce soit. Et il le fait pour nous, pour les élus, pour ses élus, pour que nous, il puisse créditer ça sur notre compte, comme si on avait fait cette vie-là nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'a fait ça. Et il est venu aussi pour subir le châtiment que nous aurions dû subir en enfer pour l'éternité. Imaginez-vous un péché commis dans l'esprit, un péché commis dans nos paroles, un péché commis dans nos actions, un péché commis dans nos omissions et un péché qu'on commet sans même s'en rendre compte, ce qu'on appelle les péchés secrets. N'importe quel de ces péchés-là, quand même, si on en avait connu seulement un, commis seulement un, ça nous méritait l'enfer pour l'éternité. Est-ce qu'on a commis uniquement un? On en commet dans nos esprits, on en connaît dans nos paroles, on en commet dans nos actions, on en commet par omission tout ce que Dieu nous commande et qu'on ne fait pas. C'est un péché. Et même, on fait des péchés qu'on n'est même pas conscient qu'on les fait. On fait ça, c'est dur, à votre coup. Et Dieu dit que tout ça, ça nous méritait une punition X, qui n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Parce que plus on était pécheur, plus on a commis de péché, plus la punition qui est reliée à ça, en enfer, est grande. Et quand le Christ est venu, il a accepté de subir le châtiment que ces péchés-là nous auraient mérité, mais à notre place. Il a subi l'équivalent des souffrances que le Christ, sur la croix, a subi l'équivalent des souffrances que nous aurions dû subir à notre place dans une période déterminée de temps, lorsqu'il se dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était le Père qui jugeait nos péchés, les péchés des élus en lui. Alors, il leur dit « Souvenez-vous de votre impotence, souvenez-vous de votre corruption, souvenez-vous que vous avez été éclairé par le Saint-Esprit, souvenez-vous que le Saint-Esprit vous a ouvert les yeux à la personne de Christ, à l'œuvre de Christ. » Alors, dès le début de leur adhésion au christianisme, ils avaient expérimenté la vérité des affirmations du Christ, qui dit quoi? Matthieu 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Est-ce qu'il nous promet qu'on n'aura pas de troubles à la terre? Il dit, lorsqu'on vous outragera, il nous met au futur, on va nous outrager si on vit pieusement en Jésus-Christ. On va nous haïr, on va nous persécuter. C'est pas intéressant de se faire dire ça. Mais si on compare ça, les souffrances qui nous sont occasionnées par la foi en Christ, si on compare ça à ce qu'il nous donne en contrepartie, ça se compare même pas que les Écritures nous disent. Incomparable. C'est des choses qui sont au-delà. Dans les versets 32, la deuxième partie, versets 33 et 34, première partie, il dit « Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, au pluriel. » Et là, il dit « D'une part et d'autre part. » Là, il dit « Les souffrances sont de deux natures, deux sortes différentes. » Et voici la première différence. Il dit « D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, Donc, tu vas en avoir des souffrances, tu vas en avoir. Et de l'autre, en vous associant à ceux dont la position est la même. Donc, il va y avoir des souffrances qui vont être liées à ton choix. Puis, il va y avoir des souffrances qui vont être liées au fait que tu veux aider quelqu'un qui croit. Parce que ça aussi, ça peut t'emmener du trouble. Et après ça, il dit, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » De qui il parle? Il parle de lui-même. Paul a été emprisonné pour sa foi. Et eux, parce qu'à l'époque, là, aller visiter quelqu'un qui était un croyant, c'était te mettre au blanc, comme on dit. C'était vraiment dangereux. Là. Alors, il y avait une souffrance qui était reliée à ta propre décision. Il y avait une souffrance qui était reliée au fait que tu prenais pour quelqu'un qui était croyant et qui était persécuté, lui. Et quand Paul était en prison, aller visiter un prisonnier qui était chrétien à l'époque, là, c'était s'exposer sérieusement. Alors, il dit, souvenez-vous au début le grand combat que vous avez soutenu. Il est en train de leur rappeler, là, vous avez fait un grand bout de chemin. Vous êtes rendu là, et là, vous souffrez beaucoup et vous êtes porté à vouloir lâcher. Il est en train de leur dire, surtout, faites pas ça. Continuez. Alors, le verset 32 nous montre que le combat est inévitable lorsque la foi est exposée publiquement. Lorsque le chrétien expose publiquement sa foi, il ne peut qu'expérimenter la rage de ses ennemis. Le combat est double. Il vient de l'intérieur et il vient de l'extérieur. Pourquoi de l'intérieur? Parce qu'on a encore notre vieille nature. Notre vieille nature, elle, tout ce qu'elle aimerait faire, c'est de retourner se vautrer dans son péché. N'est-ce pas que vous avez déjà expérimenté ça, qu'on aimerait y retourner des fois? Ça, c'est le combat, il vient de l'intérieur. Mais aussi, il vient de l'extérieur. Promenez-vous sur la rue pour distribuer des traités après-midi. Si vous voulez savoir ce que ça va faire, si vous allez être aimé parce que vous allez présenter Christ à quelqu'un. Mais viens-vous me faire une coquinerie? C'est ça, c'est la rage de l'ennemi. Galates 5, versets 16 à 21, nous parle du combat intérieur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, là, il parle de notre nature, notre vieille nature. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Savez-vous, je me souviens d'avoir lu un commentaire, un moment donné, il disait que c'était un Africain qui était nouvellement venu au Seigneur. Puis, il disait au pasteur, il dit, je me sens comme s'il y avait deux chiens à l'intérieur de moi. Ils sont toujours en train de se battre. De quoi il voulait dire? Il y avait sa nouvelle nature qui voulait vivre selon Christ, et il y avait son ancienne nature qui l'appelait à retourner à ses fautes passées, à ses péchés. Il voulait retourner se vautrer dans ses péchés. Le combat est intérieur et il est réel. Alors, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et là, ici, il les donne les œuvres de la chair. Notre vieille nature, c'est quoi qu'elle veut faire, notre vieille nature? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et là, Paul dit une chose importante qu'on se doit de se souvenir. « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Fameux combat intérieur. Mais on a une arme monumentale pour combattre notre vieille nature. C'est l'Esprit de Dieu. Encore faut-il la laisser conduire, comme ça dit, « si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. » Acte 4, versets 1 à 3, nous parle du combat extérieur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Voyez-vous, à l'époque, tu parlais du Seigneur, tu prenais les mains et tu te foutais dedans. Pensez-vous que ça n'existe pas encore aujourd'hui?
Lisez la petite revue qui est gratuite, qu'on peut s'abonner, The Voice of the Martyrs, où ils nous prennent l'ensemble de tous les pays du monde où il y a encore de très, très grandes persécutions, de toutes sortes. Enlever tes biens, t'emprisonner, te faire passer pour un fou, etc., etc. La torture même. Vous lisez ça, vous dites, on est en 2013, ça existe encore. Ici, au Canada, dans la plupart des pays européens, c'est calme, là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas revenir. Ça peut revenir.
Alors, il parle des souffrances doubles dans le verset 33, les souffrances personnelles. Les souffrances qui sont publiques. La version Sterval dit, au lieu de dit le mot publiquement, ils vont vous faire souffrir publiquement. Les tribulations, qu'est-ce que c'est? Des accusations malicieuses. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, se faire dire des choses contre lui qui sont pas vraies? C'est ça une accusation malicieuse. Tu sais que c'est pas vrai, mais tu l'accuses quand même. Les dérisions, rire de vous, des punitions, les privations de biens. Combien, si vous lisez l'histoire de l'Église, combien de chrétiens se sont fait arracher leurs biens, leurs maisons, leurs meubles, leurs familles, leurs enfants, à cause de leur foi en Christ. Lisez l'histoire de l'Église, n'importe quel bon livre d'histoire de l'Église, vous allez voir que ces choses-là se sont produites régulièrement et qu'ils continuent de se faire encore. Par contre, on ne le voit pas aujourd'hui au Canada, que ça ne se fait pas ailleurs, puis que ça ne pourra pas revenir au Canada aussi. Le salissage du caractère, le salissage de la réputation, les emprisonnements, les sévices physiques, c'est ça des tribulations. Et la deuxième partie du verset 33, j'ai appelé ça les souffrances participatives. La version Sterval traduit « Vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. » C'est que tu n'as pas été traité toi-même comme ça, mais il y a quelqu'un que tu aimes qui est traité comme ça, et en t'identifiant et en voulant l'aider, ça crée une double souffrance. N'est-ce pas qu'on souffre autant de voir souffrir ce qu'on aime que souffrir nous-mêmes? Il y a bien des personnes, des adultes, quand ils voient leurs enfants souffrir, ils se disent « Ah, Seigneur, si tu pouvais me donner la souffrance de mon enfant, je serais prêt à la prendre. » On souffre autant de voir souffrir quelqu'un qu'on aime qu'on souffre nous-mêmes. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous avez souffert vous-même, mais vous avez souffert parce que vous vous êtes identifié à ceux qui se sont identifiés à Christ. Philippiens 1, 29. Avant, on va aller voir autre chose. 2 Corinthiens, chapitre... Romains 8. On va commencer par Romains 8. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, là il parle de les souffrances qu'on peut vivre maintenant, en 2013, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il est en train de nous dire, peu importe le degré de souffrance, il y en a qui souffrent beaucoup plus que nous autres, là, des chrétiens sur la terre. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il est en train de dire, ce que vous allez recevoir, ça n'a rien à voir si tu essaies de comparer l'un et l'autre. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Car nos légères, il appelle ça léger. C'est sûr que si quelqu'un souffre beaucoup, tu vois, il lit ce verset-là, il dit, ouais, c'est léger parce que tu n'es pas dedans, là. Mais les Écritures utilisent le mot « légère », c'est toujours en comparaison avec d'autres choses. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et Philippiens 1, 29, c'est un verset qui est dur à comprendre. C'est un verset qui est dur à accepter. C'est un verset qui est dur à appliquer, surtout. Écoutez bien, Philippiens 1, 29, « Car il vous a fait la grâce. » Qui ça, « il » ? Dieu. Il vous a fait la grâce. La grâce, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Il nous fait une grâce de souffrir pour lui. Il dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est la grâce qui fait en sorte qu'on croit en Christ. » Mais encore de souffrir pour lui.
Recevoir la grâce de croire en Christ, c'est une grâce. Mais souffrir pour lui, c'est aussi une grâce. On a-tu de la misère à accepter ça? Souffrir, c'est une grâce. As-tu de la misère avec ça? Hein? Avez-vous de la misère avec ça, vous autres? Moi, j'en ai. J'aime pas ça souffrir, moi. Vous autres, je pense pas non plus. L'être humain n'aime pas souffrir. Et ici, les Écritures nous disent, pas souffrir pour n'importe quoi. Il dit, si vous souffrez à cause de Christ, c'est une grâce que je vous fais. Et pourquoi il nous dit, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alors, souffrir pour lui, c'est une grâce. Et que ça prend du temps avant d'apprendre ça, mes amis. Vous pouvez avoir lu Philippiens 1, 29, 50 fois, 100 fois. Il faut s'arrêter. Il faut se dire, souffrir pour Christ. Et il faut enlever nos illusions de croire qu'on est capable de vivre et de témoigner de Christ sans souffrir. Ça, c'est une je dirais que c'est la plus grande illusion de la vie chrétienne. Puis on se cache tout. On est tous pareils. On n'est pas différents les uns des autres. On a peur. Ah, ben si je donne ça, il va rire de moi. Ah, ben si je donne ça, il va me mépriser. Ben non, si je donne ça, il va. On est tous pareils. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire si on est peureux, si on est misérable? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? D'aller au trône de la grâce, de confesser ton péché, confesser ta faute, et de lui dire, Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce que tu me demandes. Je te le demande par grâce. C'est lui qui nous dit d'aller au trône de la grâce pour lui demander ce que nous avons besoin. On a-tu besoin de courage? Oui. On a-tu besoin d'hardiesse? Oui. On a-tu besoin d'accepter de souffrir pour son nom? Oui. Pensez-vous que vous allez l'obtenir si vous ne le demandez pas? Mais faites attention parce que si vous le demandez, il va vous prendre au mot. Parce que vous allez souffrir. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut vraiment la peine. Deuxième point qu'on va regarder, souvenez-vous de l'expression de votre foi. Verset 35 et 36, la première partie du verset 36, il dit « N'abandonnez pas votre confiance qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience. » Supposons que vous êtes chrétien depuis plusieurs années, vous avez beaucoup souffert pour le Seigneur. Et là, il arriverait un moment au Canada où on dirait, vous n'avez plus le droit de parler de ça, parce que si vous parlez de ça, on vous emprisonne, on vous torture. Combien d'entre nous continueraient? Je ne sais pas si vous avez lu le livre de celui qui est le président de ça, là, comment ça s'appelle? Je l'ai nommé tantôt. For Christ, là, en tout cas, j'ai nommé le nom de la revue tantôt. Là, The Voice of the Martyrs. C'est un Roumain qui, à l'époque, avait été envahi par les communistes. Et il était pasteur, et les communistes avaient réussi à convaincre la plupart des pasteurs de la Roumanie de se fermer la gueule et de faire une religion comme eux voulaient qu'ils la fassent. Prêcher en chair, mais parler pas trop de Christ, parler de choses qui dérangent pas personne. Et le pire, c'est que la plupart des pasteurs, ça démontre comment le cœur humain est tordu, hein? La plupart des pasteurs sont embarqués là-dedans, excepté cet monsieur-là qui s'appelle Warbrand, quelque chose comme ça, je me souviens bien de son nom. Lui, sa femme, sa fille, allaient dans les armées russes qui se promenaient dans les rues de Roumanie et ils distribuaient des traités aux gens. Ils se faisaient arrêter, ils se faisaient foutre en prison, ils se faisaient torturer. Il est allé là 10 ans, il raconte sa vie dans un petit livre qu'on a en bas, si jamais nous, ça vous tente de lire ça, là, du monde courageux. C'est bizarre. Moi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est que les chrétiens qui s'exposent le plus, qui souffrent le plus, ce sont ceux qui sont le plus proches du Seigneur. Ce sont ceux que le Seigneur bénit le plus. Il était en prison, il dit, ça faisait 10 ans, j'étais là, je souffrais tellement, là, puis il dit, je sentais quasiment la laine du malin, il me dit, tu fais là, ton Dieu, il t'a pas lâché, ton petit Dieu, là. Il dit, je sentais ça, il dit, ça me faisait souffrir terriblement. Puis là, à un moment donné, je priais, puis l'Éternel venait se soulager. Bien, normalement, si vous avez fait 10 ans dans des conditions de même, dans des prisons, là, c'est infect. 10 ans. Il ressort. Vous seriez porté à penser, lui, il va se tenir tranquille. Il ressort et recommence. Sa femme aussi. Sa fille aussi. Puis quand tu lis les vies de ces gens-là, moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est qu'ils sont proches de Dieu d'une façon que nous, on n'approcherons peut-être jamais ça. Quand on accepte de souffrir pour Christ, Dieu nous protège, même si on souffre. Il nous protège quand même, il nous soutient quand même. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui m'a dit, « Moi, je crois tellement au Seigneur que s'il rentrerait des soldats, puis il mettrait un arme chaque bord de la tête, puis il me dirait, « Est-ce que tu veux abandonner le Seigneur ou je tire? » Il dit, « Je dirais sans hésiter, tirer. » Mais, en même temps, quand tu regardes la vie de la personne, parce que croire, c'est pas uniquement dire je crois que Jésus existe, puis je crois qu'il a fait ci, puis je crois qu'il a fait ça. Croire, ça implique que ta vie change. Ça implique que tu fasses des choses qui transforment ta vie. Fait que si tu fais juste dire je crois, puis je me laisserais mettre un gun là, puis je tirerais, puis je dirais non. Mais si ta vie ne témoigne pas de l'authenticité de ta foi, est-ce que ta foi est réelle? Jacques dit dans son épître, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est quoi les œuvres? Tu crois que Dieu existe, mais tu changes des choses. Tu changes des choses qui vont en rapport avec ce que tu dis croire. Tu dis croire, puis tu lis pas ta Bible, tu n'obéis pas à ce qu'il te demande. Puis tu dis, ce qui viendra, il tirerait ici. Bien là, moi, je dirais, peut-être fais attention, parce que si tu dis tire, puis tu n'es pas sauvé, tu vas le regretter d'avoir dit ça. Alors, les croyants juifs nouvellement convertis ont subi de grandes souffrances et leur épreuve semble s'apesantir. C'est ça le danger. Si on souffre pour le Seigneur, puis là, disons que le Seigneur permettrait qu'au Canada, ça deviendrait invivable pour les chrétiens. Est-ce qu'on aurait assez de guts, excusez le mot québécois, ou assez de courage pour continuer à témoigner? C'est pas à cause que les autorités civiles nous défendraient quelque chose que nous, on est obligé d'obéir à ça, là. Faut pas venir avec prendre le verset qui dit obéissez à vos conducteurs ou ben non, obéissez au gouvernement. Le Seigneur a dit oui, obéissez au gouvernement, mais quand il vous demande pas quelque chose de contraire à ma parole. S'il nous dirait vous avez plus le droit d'évangéliser, ben c'est même valeur, mais désobéissance civile, non seulement est demandée, mais est essentielle. C'est là qu'on voit. Ben moi, je me dis, je me prends pas pour un héros, là. J'aurais vraiment, si ça arrivait une période de même, j'aurais peur. Mais je sais le seul endroit où je pourrais aller chercher mon courage. C'est le trône de la grâce. Sans ça, il n'y a pas un être humain qui est bâti pour être capable de faire ça, pour de traverser des affaires semblables. Dieu, c'est là que la confiance en Dieu intervient vraiment. On a confiance en Dieu, que malgré ce qui peut permettre qu'il nous arrive, on soit sauvé quand même. On soit capable de faire des choses pour lui. C'est ça qu'il nous dit, car vous avez besoin de patience, verset 36. Alors, tout l'être doit être engagé dans la lutte, l'esprit, le cœur et la volonté. Cette détermination doit être volontaire, confiante et patiente. Cette patience doit être capable d'endurer, de demeurer fidèle dans l'adversité, sans compromis ni défection. Et, chose qu'on se doit de se rappeler, la grande rémunération dont il parle dans le texte, quand il nous dit « N'abandonnons pas votre confiance », qui aura une grande rémunération. Qu'est-ce que c'est la rémunération? La personne même de Dieu, le ciel. Ça, là, ça vaut tellement cher que même si tu souffres beaucoup sur la terre, ça ne se compare pas, c'est ce que ça disait tantôt. Parce que verset 36, dernière partie du verset, il dit « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu ». Il est en train de dire que les souffrances que vous subissez actuellement sont décrétées de Dieu, sont voulues de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une tribulation, c'est faite pour enlever le faux du vrai. Et le Seigneur fait continuellement ça. Les souffrances pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose de plate. On se devrait se réjouir de nos souffrances parce que ça produit la patience. Ça produit la haine du péché, ça produit la haine du monde, ça produit l'amour de Christ, ça produit qu'on a hâte d'être rendu au ciel parce qu'on a hâte de sortir de ce monde qui est inondé et dominé par le malin et par toutes sortes de péchés. Deuxième partie du verset 36, « Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. » Qu'est-ce qui a été promis par Dieu dès le livre de la Genèse? Abraham, la promesse de Dieu, une félicité éternelle dans la présence de Dieu. Le ciel, c'est quoi? Une des plus grandes choses qu'il va y avoir au ciel, c'est la découverte de l'éternel. Quand on prendrait l'ensemble de la grande palette des attributs de Dieu, sagesse, amour, grâce, patience, etc., la bonté, mettez-les tous. Ils sont infinis. Ça a pris du temps que je comprenne ça. Dieu est tellement grand que même dans mes plus hautes, découvertes de lui dans les Écritures, les plus hautes, et quand je vais être rendu au ciel, est-ce que je vais l'avoir tout compris, puis je vais l'avoir tout vu, puis je vais l'avoir tout découvert? L'éternité elle-même ne suffira pas pour découvrir exhaustivement la personne de Christ. C'est ça le ciel. On va le découvrir. On va être dans un état continuel d'admiration, d'adoration, de découverte. Imaginez-vous, il y en a, là, que je lis des fois des livres de certains commentateurs, sont morts depuis 200 ans. Et puis, ça fait 200 ans qu'ils découvrent l'éternel, puis dans 200 ans, ils vont le découvrir encore. Puis dans 5000 ans, ils vont le découvrir encore. Ça nous donne-tu une petite idée à quel point Dieu est grand? Dieu est grand, terriblement. Alors ça, c'est ça qui nous est promis, la vie en sa présence. Une maison, une cité, un royaume, c'est les expressions eux-mêmes que les Écritures utilisent. Et là, des richesses inimaginables, inconcevables, inexpressibles, ineffables, vraies, glorieuses et durables. Ça fait beaucoup de... Mais, elles sont toutes vraies. Paul dit que quand il est allé au ciel, il a vu des choses qu'il n'est pas capable de répéter tellement les mots lui manquent. C'est inexprimable. Des richesses inexprimables. Comment je passerai ma journée à essayer de parler du ciel? Peut-être ça va élargir un peu la compréhension, mais inexprimable. Par définition, ineffable, je ne peux pas décrire ça. Un héritage indescriptible. Si quelqu'un m'appellerait, disons, après-midi chez nous, je dirais, « Ah, t'as un vieil oncle en France, là, il vaut 10 milliards d'euros, ou disons, 1 million d'euros. » On va être plus humble. 1 million d'euros. Je dirais, « Oh, un héritage d'un million d'euros. Oh, c'est intéressant. Un héritage. Hey, voudrais-tu l'avoir? C'est gratis. » Mais là, on parle d'un héritage bien plus grand que ça, indescriptible. Et un bonheur insondable. Découverte de Dieu, on se rassemble, on se revoit au ciel, on se reconnaît, on connaît les anges, on connaît les patriarches, on connaît tous les grands chrétiens de toutes les époques, et on va avoir le temps de se parler en masse, en masse, en masse, on va avoir le temps de chanter ensemble. La Bible dit qu'on va tous chanter collectivement à Dieu. Moi, là, j'ai été dans une église, on était juste 300. Puis on chantait les gloires de Dieu, et c'était fort, là, 300 personnes, on vient, les poils nous ont tous ses bras tellement qu'on vient, 300 personnes au ciel, ça va être des centaines de millions. Le cœur de chant, ça va être épouvantable. C'est épouvantable, c'est un mauvais mot, là. Ça va être... Alors, l'appréciation de la valeur du ciel est hors de la portée de l'homme terrestre parce qu'elles sont inaltérables, inépuisables et éternelles. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous obtiendrez ce qui vous est promis. J'étais promis dès Genèse 12, la promesse faite à Abraham. Maintenant, verset 37 à 39. Verset 37. Encore un peu de temps. Ce qu'il est en train de leur dire. Je lisais un auteur, quand je lisais un commentaire sur ce passage-là. Calvin, le grand réformateur, a dit, « Il n'y a rien qui soulage plus quelqu'un qui souffre que de lui faire dire « ça achève ». Quand c'est vrai, là. parce que je suis plus capable. Ça achève. Et quand c'est vrai, là, c'est vrai que ça fait ça. Ça soulage. Il dit encore un peu de temps. Il est en train de leur dire que ça achève leur souffrance. Il dit, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. La plupart des auteurs pensent qu'il parle de deux choses ici. La mort va te libérer de tes souffrances. Parce que pour la plupart de ces gens-là, tu as des gens peut-être de 45-50 ans. Donc, quoi, il lui reste quoi, 15-20 ans? Mais c'est quoi 15-20 ans? C'est court. Il leur dit, car encore un peu de temps. Et il viendra, soit au moment de ta mort, parce que le Seigneur, il dit que la vie de ses saints, à ses yeux, est précieuse. Quand vous mourrez, là, le Seigneur, il a payé tellement cher pour votre âme, si on vous dit que c'est précieux pour lui. Il dit, et il viendra. Si tu meurs, il va venir. Puis si tu es sur la terre au moment de la deuxième venue de Christ, son retour, il dit, et il ne tardera pas. Que ce soit qu'on parle du fait de la libération par la mort, parce qu'il y a eu des chrétiens qui sont morts dans tous les siècles, mais il va y avoir des chrétiens qui vont être libérés par la seconde venue de Christ, qui vont monter avec lui. Alors, il dit, d'une façon ou d'une autre, Dieu va vous libérer de votre souffrance un jour. Alors, c'est ça, le grand réformateur Jean Calvin disait que rien ne peut encourager une personne, mieux encourager une personne que de savoir que son épreuve achève. Et il vient leur rappeler ici, Christ viendra les chercher au moment de leur mort, et pour une certaine génération de chrétiens, ils verront sa deuxième venue en gloire. Psaume 116, verset 15. Souvent, quand une personne que je connaissais qui était chrétienne mourait, j'écrivais une carte, je prenais toujours ce verset-là parce que je trouve que c'est un beau verset à écrire à quelqu'un qui est mort. La mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse à ses yeux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de précieux dans votre vie, un bijou, un souvenir. On a tous quelque chose de précieux. Mais quand Dieu nous dit qu'il nous trouve précieux, croyons-le. Il nous trouve précieux. Psaume 116, verset 15. Dans Actes 1, verset 11, il dit, pour parler de la seconde venue, il dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ils l'ont vu, il va revenir de la même manière. La deuxième venue, on l'attend. Les chrétiens de toutes les générations ont pensé que ce serait durant leur génération qu'il arriverait. Peut-être que c'est là notre génération, on ne sait pas. Possible. Moi, j'aimerais bien ça. Être sur la terre, être encore vivant, voir le Seigneur revenir et que je ne mourrai pas physiquement. Il va y avoir une génération de chrétiens qui ne mourront pas physiquement, qui vont monter avec le Christ. C'est extraordinaire. C'est une grande grâce. Là. La génération qui va connaître ça, là, spéciale. Et dans quand on dit « ça ne tardera pas », Matthieu 24, 30 à 31, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Et regardez bien la dernière verset qui parle que quand elle dit ça ne tardera pas. Il viendra, il ne tardera pas. Verset 2 Pierre, verset 3, 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne tarde pas. C'est parce qu'il y a des élus qui ne sont pas encore arrivés dans le corps de Christ. Et quand le dernier va arriver, ça va être ferme les portes, le Seigneur revient, le reste vont être jugés. Hébreux 10, 38. Et là, il leur rappelle une autre grande vérité. Il faut vous souvenir que la manière il faut que vous allez chercher votre force auprès de Christ. Et après ça, il leur dit, « Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Et la plupart des auteurs pensent que tous les auditeurs de l'Épître aux Hébreux ne se sont pas retirés dans le judaïsme. Ils ont persévéré. Mais l'influence de cette lettre-là, de celui qui l'a écrit, a probablement été très grande. pour ne pas faire l'erreur de retourner là-dedans. Et c'est l'Éternel qui permet que les, qui a permis que cette lettre-là leur soit écrite. Et là, ils ont dû réfléchir. C'est vrai qu'on a un grand bout de chemin de fait. C'est pas le temps de...
Alors, Hébreux, ça vient vraiment leur montrer. Et c'est tiré de Habacuc, chapitre 2, versets 3 et 4, qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Ils vont chercher les phrases qui viennent de l'Ancien Testament. Alors, nul chrétien véritable ne se retire, seul celui qui professe croire, mais sans réalité, pour le démontrer, peut apostasier. Et dans le verset 39, je dirais que c'est le verset, la signature de Dieu. Il leur dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est en train de dire, vous qui écoutez ce message-là, nous, il s'inclut, puis il dit, nous, on n'est pas du style à retourner dans ça. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi véritable est durable. Elle mène vers le salut de l'âme et le ciel. Elle est cependant dépendante de notre confiance et de notre obéissance à Dieu en Christ. Le croyant véritable utilise tous les moyens de grâce et se confie absolument et entièrement sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ et aucunement en ses mérites personnels. On devrait tous savoir ça. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la vie chrétienne ne sera pas nécessairement facile. Et ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on utilise tous les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. La parole, l'assemblée, la prière, et bien d'autres choses. Tous les moyens de grâce, on a fait une leçon sur les moyens de grâce quand on a fait notre série sur l'Église, l'histoire de l'Église. Pas l'histoire de l'Église, mais l'Église locale, l'ecclésiologie. Ils sont tous là, je pense qu'il y en a une 10 ou 12. Les moyens de grâce, Dieu nous a donné des moyens pour se maintenir dans le chemin. Si on ne les utilise pas, c'est sûr qu'on va s'affaiblir. Mais si on les utilise, on va être fort et, comme il dit, le juste vivra par la foi. Je fais trois applications à partir du texte qui sont toutes reliées avec la mémoire. Le premier mot dit « N'oublions jamais que vivre pieusement en Jésus-Christ nous amènera persécution, haine, rejet, mépris et autres tribulations au pluriel. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Répondons honnêtement à cette question et demandons au Seigneur de nous sonder. Sommes-nous persécutés? Si nous ne le sommes pas, pourquoi? Deuxième application, rappelons-nous que c'est une grâce que de souffrir pour Christ. Philippiens 1, 29, on l'a lu tantôt, « Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Troisième application, remémorons-nous les paroles de Christ dans Matthieu 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Quand Dieu dit, Jésus qui parle, donc c'est l'homme-Dieu, il dit « Votre récompense sera grande dans les cieux. » Quand Dieu parle, il mesure ses mots. Le mot « grand », il veut dire quelque chose. Si vous souffrez pour Christ sur la terre, votre récompense sera grande dans les cieux. Que le Seigneur soit adoré, béni et loué éternellement. Amen.